Merci. Voilà, quand Michel m'a demandé hier soir si je voulais témoigner, je lui ai dit, oh, je vois vraiment pas, non. Je vois pas bien qu'est-ce que je pourrais dire. Puis finalement, en y repensant, je lui ai dit tout de même, s'il y a tout de même une raison que, pour moi, un peu d'action de grâce et puis de joie. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en parler aussi. Voilà. Alors, je m'appelle donc Michel Meunier. Je suis né en 1946. Donc j'ai 77 ans. Et avant de parler de l'entrée au séminaire ou autre, finalement, là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler un peu des origines familiales et des, parce que finalement, je crois que je suis le fruit aussi d'une histoire de familiale, bien sûr, mais une histoire aussi de laïcs engagés dans l'Église à leur manière. Bon, mon grand-père, il était châtelain, mais en même temps, il avait donc une exploitation agricole. Et puis, il était maire. Et puis, en fait, il a été pas mal marqué par les courants du christianisme social. Il avait créé, enfin, aidé à la création de syndicats agricoles et de coopératives, etc. En fait, il y avait tout un, je pense, il y a eu tout un grand élan avec les grandes figures du 19e siècle qui ont marqué le christianisme social, mais sur lequel il avait été un peu touché. Et puis, côté de ma grand-mère maternelle et mon grand-père est mort à la guerre de 14-18, de la grippe espagnole, comme une autre de ses filles. Et ma grand-mère, donc, a élevé. Alors, c'était un milieu assez intellectuel. En fait, il y avait plusieurs polytechniciens dans la famille. Une partie de la famille était croyante, et puis l'autre, elle était croyante, mais avec une foi qui est très interrogative sur une exigence un peu de concilier la foi et la science. Et entre autres, Teilhard de Chardin avait pas mal marqué un certain nombre. Puis l'autre était, par contre, resté plutôt incroyant. Voilà. Alors donc ça, c'est déjà un peu des racines familiales qu'ont porté mes parents aussi. Et ma mère, en fait, avait découvert la jeunesse indépendante chrétienne féminine à l'époque, qui était un mouvement avec une intuition que il y avait eu la naissance de l'AJAC, ça vous en avez entendu parler, qui avait découvert combien, en fait, l'évangélisation ne pouvait se faire que de l'intérieur, et que un jeune travailleur valait plus que tout l'or du monde, et que voilà, qu'il fallait faire confiance à ces jeunes travailleurs pour vivre l'évangile et en témoigner auprès d'eux. Et en fait, ça a eu un un impact aussi sur des gens de milieux indépendants, comme on dit ou on disait, qui se sont dit, mais voilà, et chez nous, est-ce qu'on vit l'évangile vraiment dans notre culture, dans nos mentalités? Et est-ce qu'on n'a pas aussi à faire un travail d'évangélisation de notre milieu, quoi? Donc ma mère, en fait, s'est laissée appeler par cela, et elle a été nationale de la zone libre pendant la guerre. Et alors, il y avait un travail avec les évêques aussi qui se faisait fortement. Enfin, c'était vraiment porté par l'Église de France. Voilà. Et puis, voilà. Donc pour ma mère, elle a toujours, bon, ça a été un temps. Après, ils se sont engagés tous les deux à l'Action catholique des milieux indépendants, qui a été très porteur dans leur propre vie de foi et leur recherche de témoignages. Bon, mon père, lui, était ingénieur général de l'armement. Enfin, c'était le génie maritime à l'époque. Il y avait aussi le souci de l'évangélisation du milieu militaire et puis du milieu scientifique aussi, parce que mon père, donc, comme ingénieur, était plongé aussi dans toute la recherche scientifique sur l'acoustique sous-marine, etc. Voilà, alors j'en parle parce que finalement, peut-être avec le temps, on voit mieux combien on est le fruit aussi de toutes ces générations qui nous ont portés. On parlait hier de monter sur les épaules des géants. Mais alors, je ne sais pas si c'est des géants, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a beaucoup reçu. Et je m'en aperçois peut-être plus maintenant de tout cela. Alors moi, en fait, jeune, j'ai pas été dans l'action catholique, hein, mais plutôt dans le scoutisme. Et puis, en fait, en aumônerie, dans un collège mariste, j'étais marqué par le Vie chrétienne jeune, qui existait déjà à l'époque. Et ça m'a permis de trouver le chemin de la foi et de me poser la question du sacerdoce. Allez, je suis donc rentré au séminaire en 67, après 2 années en sciences économiques. Et là, donc, on a vite plongé dans le 68 aussi. Et ça a été une belle époque. Certains avaient une idée un peu caricaturale ça doit être la révolution dans le séminaire, etc. En fait, on a eu la chance d'avoir des prêtres sulpiciens, au moins certains, qui tenaient très bien la rampe et nous ont vraiment aidés à, finalement, avec une intuition d'Action catholique, regarder, discerner et transformer. C'est-à-dire, voilà, il ne s'agit pas de courir après ça, mais en même temps, ce qui se passe dans notre époque est une occasion de nous reposer des questions sur qu'est-ce que c'est que le monde qu'on veut, et puis vivre la foi dans ce monde-là, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc, finalement, on en est sorti en 73, j'ai été ordonné en 73. Finalement, on avait été plutôt stimulé par cette période-là que dérouté, quoi. Il y en a eu d'autres qui ont été déroutés, mais au séminaire, ça a été plutôt pour nous, plutôt une période porteuse. Voilà. Alors, ordonné en 73 par Mgr Marty, on était 7, donc pas tant que ça, hein. Vous connaissez peut-être certains. Il y avait donc Gérard Boëte, Bernard Kerruel, Jacques Vallet, Dominique Pabois, lui, il a quitté le sacerdoce assez vite après. Et puis, il y avait Michel Grenet, qui était plus âgé que nous. Et puis, voilà. Donc, pas si nombreux que ça. Et notre génération, c'est sûr qu'elle a été assez attirée par une pastorale qui avait pris de l'ampleur dans l'Église de France, qui est la pastorale avec l'accent catholique. À Paris aussi, il y avait tout de même un bel effort avec les différents mouvements. Il y avait une direction, délégation de l'apostolat des laïcs, en fait, qui avec un vicaire général qui la pilotait, et puis donc tous ces mouvements qui étaient tout de même très très développés, et les prêtres en fait soutenaient tout de même fortement tout ce travail-là. Il faut dire que pour nous c'est une période qui a été tout de même très très riche, parce que moi ce qui m'a frappé dans les mouvements c'est le fait d'être au service de la vocation baptismale des laïcs, quoi, qu'il y avait vraiment. Ils étaient responsables de leur mouvement et on cherchait avec eux un petit peu les chemins de l'évangile dans les réalités dans lesquelles ils étaient plongés, sociales, familiales, professionnelles, même politiques, etc. Et donc ça a été un lieu très nourrissant. Il y avait un assez gros travail aussi entre prêtres de reprise. On avait régulièrement deux fois par trimestre, pratiquement des reprises de notre accompagnement des laïcs pour discerner un peu qu'est-ce qu'on recevait, mais aussi comment on pouvait servir la recherche des laïcs et l'annonce du Christ. Voilà. Alors, vous savez que souvent en Action catholique, il y a ce qu'on appelle la révision de vie. Où les gens sont donc invités à s'arrêter sur une chose qu'ils ont vécue pour y discerner finalement qu'est-ce qui se jouait là-dedans. Sortir d'un jugement a priori, c'est bien, c'est mal, pour essayer de me comprendre qu'est-ce qui animait les personnes, soit d'abord eux-mêmes, mais aussi leur milieu social, dans les réactions qu'ils avaient eues dans tel contexte, etc. Donc avec ce qu'on a dit aussi plutôt du côté de la monde ouvrier, voir, juger, agir, et en ACI c'était plus regarder, discerner et transformer, c'était en fait la même chose, quoi, mais avec un vocabulaire différent. Voilà. Et donc il y avait ça, que c'était un des points forts, avec aussi un thème d'année, une recherche, par exemple comment nous gérons les biens nous-mêmes et dans notre milieu, nos biens. Voilà, on a des biens, mais Comment on les gère finalement? Qu'est-ce qu'il y a d'évangélique dans notre manière de gérer nos biens, etc. Ou bien dans l'éducation de nos enfants? Est-ce qu'on est en train simplement de reproduire une vision sociale, ou est-ce qu'on a un souci de croissance et d'évangélisation, quoi, de nos enfants, etc., quoi. Et puis, il y avait un troisième pôle qui était celui de méditer la parole de Dieu. Chaque mois, il y avait aussi un texte que méditer en équipe, quoi. Voilà. Alors ça continue encore pour les équipes qui existent, hein, parce qu'il y a encore tous les mouvements de laïcs, en gros, encore existent, mais c'est vrai qu'ils ont tout de même beaucoup diminué en nombre. Je pourrais te parler, dire un peu plus pourquoi. Il y avait aussi très fort une conscience que les liens sociaux qui nous font, si on est tous issus d'un milieu social, d'une famille, d'une culture, etc., et que si on veut faire un travail d'évangélisation en profondeur, il faut savoir mettre à jour toute cette dimension-là et en chercher en quoi c'est une chance pour l'Évangile, en quoi au contraire il y a quelque chose qui est contraire à l'Évangile dans ce qu'on en vit, quoi. Et c'était vrai même pour les enfants, avec l'Action catholique des enfants, c'est ce qui a succédé à Cœur vaillant, âme vaillante. Il y avait l'idée que les enfants eux-mêmes sont acteurs eux-mêmes d'une vie et d'une évangélisation possible. Par exemple, je me rappelle des campagnes, une campagne sur être sème la joie. Alors, tous les gars, ensemble, ils cherchaient comment ils pouvaient sème la joie et qu'est-ce que ça transformait pour eux de donner de la joie à d'autres, etc. Des choses qui étaient assez belles. Alors, mon premier poste a été à Notre-Dame de Lorette, dans le 9e. Comme tout jeune prêtre, j'ai eu pas mal de secteurs de la jeunesse. Et puis, en fait, j'ai eu comme premier curé Jacques Cuche, que certains connaissent peut-être, une sacrée figure. Il a écrit à 100 ans un livre que je vous conseille, qui s'appelle... Oui, 75 ans au service du Christ et de l'homme, mes frères. Ça, il y en a eu un dernier que vous avez préfacé sur les psaumes. Ouais, à 100 ans, à 101 ans, il écrit des bouquins. Et c'est assez impressionnant. Quand on lit ce bouquin, je vous le conseille. Donc 75 ans d'histoire de l'Église, c'est tout de même intéressant. D'autant plus que cet homme, ça a été vraiment un pasteur. Et là où il était, il a été curé de Lorette, de l'Immaculée Conception, et puis de l'Assomption à Passy. Et il s'est laissé provoquer là où il était à chaque fois par les appels. Par exemple, sur le 12e, il y avait Pigalle au nord de la paroisse. Il avait beaucoup soutenu le mouvement du Nid pour sortir les prostituées de la prostitution. Quand il a été sur le 12e, il est devenu aumônier des forains, de la foire du trône, etc. Et puis, il a beaucoup investi aussi dans Ombre et Lumière, le monde handicapé, les femmes, soutenir les femmes. Foi et Lumière, plutôt, oui. Foi et Lumière. Voilà. Et alors, quand on lit ce bouquin, je l'ai lu il y a quelques années, ce qui m'a frappé, c'est donc, on voit un cœur de pasteur. Et puis... toujours passionné finalement de la mission, et en même temps il se prend pas pour une vedette, quoi. C'est pas ronflant sur lui-même. Il y a un souffle, quoi. On voit qu'il a été heureux comme prêtre tout le long de sa vie, et il raconte ça d'une manière très avec pas mal de détails. Tout ça. Donc n'hésitez pas à le lire. Mais finalement, je reconnais que c'est plus a posteriori que j'ai découvert tout ce qu'il avait apporté. Lorsque je l'ai eu comme curé, bon, finalement, les rapports étaient bons, il nous faisait confiance, on avait des bons échanges pastoraux, etc. Mais je me rends compte aujourd'hui que, face soit à lui, soit à des prêtres anciens qui étaient là, on n'était pas évidemment très attentifs à ce que eux nous apportaient d'originaux, quoi. Donc ça, c'est peut-être un petit point d'attention. Bon, et puis après, j'ai été à Saint-Germain-de-Charonne, encore comme vicaire, dans le 20e arrondissement. Voilà, bon, ben là, un ministère intéressant. À la fois, donc, j'étais travail au Monnerie et Haute, et puis aussi, j'ai été en même temps aumônier diocésain de l'Action catholique des enfants, pour un certain nombre d'années. Là, rien de très, très particulier à dire. Après, je suis parti, j'ai été curé à Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais. Bon, ben là, une belle expérience aussi. C'est vrai que le fait de se retrouver curé, je pense que pour vous, c'est pareil, c'est tout de même assez épanouissant, parce que tout de même, on est en responsabilité, on sent qu'on nous fait confiance, à la fois les laïcs, qui nous font confiance, et puis aussi le diocèse. Donc ça encourage. Par ailleurs, j'ai été sensible aussi dans les deux, après j'ai été curé aussi à, j'en parlerai après, à Saint-Germain-de-Charonne de retour, mais à chaque fois il y a eu des séminaristes, et ça aussi c'est quelque chose qui a compté pour moi. Il y en a eu des qui venaient de l'oratoire, parce qu'on avait la communauté de l'oratoire qui était sur le Marais à l'époque. Il y en a eu aussi des Carmes, il y en a eu des missions étrangères de Paris, et puis il y en a eu aussi du diocèse de Paris. Donc ça, c'est un chou assez à plan, en fait, d'accueillir des séminaristes. Et puis on voit bien qu'ils apportent aussi leur regard et leur dynamisme. Voilà. Ceci dit, à la fois j'ai aimé le rôle de curé, soit là, soit à Saint-Germain-de-Charonne, mais en même temps ça m'a un peu stressé, parce que bon, le tempérament, je suis un peu tendu, donc voilà, vraiment j'avais un peu de la peine, et à fin de Saint-Germain-de-Charonne, en fait, c'est moi qui ai dit, oh, j'ai besoin d'une année sabbatique, il a fallu bagarrer un petit peu, mais je l'ai obtenu finalement. Essayez, hein, ne faut pas hésiter. ça a été une année fructueuse. J'ai pu d'abord faire le chemin de Compostelle. Alors là, j'avais pas de groupe à animer, des trucs comme ça. Mais finalement, ça a été du bonheur à la fois humain et pastoral. Parce que quand on a rien à animer, mais qu'on rencontre plein de gens qui, chacun, enfin presque tous, sont en recherche à leur manière, quoi. Le chemin de Compostelle, ça a un gros avantage que c'est pas lourd ou un pèlerinage très typé catho. Il y a vraiment des gens de tous bords. Et donc j'avais une vraie joie de faire tout ce chemin jusqu'à Compostelle pour commencer, une voie pastorale. D'ailleurs, ça m'a amené après à m'engager, j'ai aidé à fonder un accueil francophone à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce qu'en fait, ça manquait beaucoup que les pèlerins, finalement, ils arrivaient riches de tout un vécu humain et éventuellement spirituel, mais finalement, ils ne pouvaient pas du tout le partager, parce que, bon, d'abord, en Espagne, ils ne proposaient pas grand-chose, quoi. Et puis la barrière de la langue pour beaucoup. Et puis, voilà, donc on a eu l'idée, ça existe depuis 7 ans, d'un francophone des équipes, de tous les 15 jours se relaient un prêtre et 3 laïcs pour permettre aux pèlerins à la fois de partager ce qu'ils ont vécu sur le chemin, de découvrir une approche spirituelle de la cathédrale et de comprendre un peu le message, parce que pour beaucoup c'est tout de même un peu du chinois. Qu'est-ce qu'il y avait comme troisième pôle, ça ne me revient plus tout de suite, mais voilà, c'est une initiative intéressante. Et puis par la suite, je suis retourné donc là-bas pour ces accueils, où j'ai accompagné quelques fois des pèlerinages sur le chemin de Compostelle. Bien, sinon, après le pèlerinage de Compostelle, j'ai passé 9 mois à l'Arche. je cherchais plus quelque chose qui me renouvelle de par le cœur plutôt que de faire travailler la tête d'abord, quoi. Et de fait, c'était un beau lieu à Trolivreuil, une belle expérience de vivre en communauté avec les personnes handicapées. Et puis, de travailler à l'ESAT. Et puis, voilà. Donc, ça a bien correspondu à ce que je cherchais. Et après, finalement, j'ai rejoint Saint-Éloi, dans le 12e, où je suis resté 12 ans. Là, j'ai eu la joie d'être avec Jean Courtès, un gars que j'aime beaucoup. Donc là, j'étais du coup vicaire et plus curé. Mais on a fait une belle équipe. Et on a, il y a notre ami qui a été 2 ans ou 1 an? 1 an, ouais. Voilà. Et puis, par ailleurs, on m'avait demandé différentes missions, entre autres d'assurer l'aumônerie de Tibériade, qui accueillait, qui accueille toujours d'ailleurs, des personnes malades du sida. Ça avait été créé avec Lustiger et l'Emmanuel. Et puis, après, ça a été passé plus aux animations du diocèse. J'y suis resté 4 ans, et une belle expérience, parce que, enfin, ça vous humanise. On découvre mieux tout ce que peuvent vivre les personnes homosexuelles, les personnes transsexuelles, etc., avec pas mal de souffrances, mais aussi des belles recherches, voilà, et y compris des quêtes spirituelles. Donc, un beau lieu qui... Voilà, que j'ai été heureux de vivre. Et puis, 4 autres années, j'ai été aussi aumônier national de l'Action catholique des femmes. Alors, je connaissais pas l'Action catholique des femmes avant. C'était avant l'Action catholique générale des femmes. Un mouvement qui a eu une très grande période, puisqu'ils ont eu plus d'un million de membres à une époque. Mais dans l'époque où j'y étais, c'était beaucoup, beaucoup réduit. Ils avaient fait un très gros travail dans les paroisses d'animer une vie sociale et chrétienne dans les paroisses. Bon, et alors là, ça a été intéressant parce qu'il y avait une équipe laïque tout de même assez charpentée. Ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est que j'étais pas trop d'accord, et l'Église de France non plus, sur certaines orientations qu'elle prenait, de transformer leur mouvement en mouvement du... reconnu d'utilité publique, ce qui nécessitait de gommer l'aspect lien à l'Église dans leur statut et dans leur mission, quoi. Donc ça a été un peu compliqué et créé quelques tensions. Mais voilà, ça faisait partie de mes recherches. J'ai oublié de dire que j'ai été à Notre-Dame d'Auteuil aussi. Là, j'ai fait que 4 ans. En fait, entre Saint-Paul-Saint-Louis et Saint-Germain-de-Charonne, j'étais à Notre-Dame d'Auteuil 4 ans. Voilà. Et là, c'est l'occasion de parler un peu du rapport entre prêtres. Finalement, quand j'étais arrivé avec Bernard Goudet, parce que donc, j'avais été curé avant, mais là, j'étais plus curé, mais à mi-temps en paroisse et mi-temps pour servir les mouvements d'Action catholique sur le 16e. Et là, ce qui était un peu compliqué, c'est que avec le curé, avec Bernard Goudet, qui était, quand je suis venu, les rapports étaient très très bons. Puis après est arrivé un autre avec qui ça a été plus difficile. Et voilà. Alors finalement, quand je relis ma vie de prêtre, je considère que pratiquement 9/10 du temps, il y a eu de bons rapports entre prêtres. Voilà. On ne faisait pas des équipes très communautaires, mais il y avait une bonne estime mutuelle et un travail ensemble, une confiance, quoi. Et puis là, il y a eu 3 ans où j'ai senti plus de, un peu de méfiance et que la personne était un peu méprisante. Et ça, ça m'a fait prendre conscience combien c'est précieux qu'il y ait une estime entre nous, quoi, et qu'on sache même se le dire, en fait, cette estime. Parce que c'est comment, enfin, on a déjà parlé de ça, de la tête. Et je suis pas sûr que l'image de la tête qui garantit que toute la pastorale est bonne suffise, Mais enfin, il y a une part de vrai, certainement. Bon, et puis, quand j'étais à Saint-Éloi, il m'est arrivé un problème de santé. C'est qu'en fait, je me suis retrouvé à la fois avec un cancer, et puis qui s'est transformé en... À la fois, j'ai attrapé une septicémie, une pneumonie et une péricardie. Et donc, les médecins m'ont envoyé pratiquement annoncer à ma famille que c'était mes derniers jours. Puis finalement, ils ont réussi à me rattraper et avec 15 jours de coma, etc. Et là, si j'en parle, c'est pas tellement pour le côté anecdotique, mais plutôt parce qu'il y a aussi une lumière qui m'a été donnée. Juste avant de tomber dans ce coma, j'ai été habité par une parole que j'avais lue, que vous avez peut-être lue vous-même, où c'est une religieuse, je crois, qui dit « Ce qu'il y a de l'autre côté, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'un grand bonheur m'attend. » Et avec la claire vision, d'abord que ce n'était pas moi qui m'étais donné cette parole, que, comme ça tout à coup, et puis que ce n'était pas du tout parce que j'avais le moindre mérite qui pouvait me permettre de prétendre qu'un grand bonheur m'attendait, mais que c'était parce que peut-être j'étais justement pauvre en amour et que le Seigneur aimait bien les pauvres, quoi. Voilà. Donc ça m'a éclairé et fait vivre ma maladie assez paisiblement, enfin au moins après la sortie du coma. Et puis je m'en suis sorti, c'était pas mon heure, mais même cette pensée a continué à m'éclairer en me disant, mais finalement je redécouvre à travers cette maladie combien la vie m'est précieuse et combien il y a des gens qui m'ont porté dans leur affection et dans leur prière tout au long de cette maladie. Et ça, c'est un vrai trésor, et ça me fait redécouvrir que le bonheur, il est pour aujourd'hui, et que Dieu nous le donne, et il faut l'accueillir, quoi. Donc ça, c'est une parole qui est restée ancrée en moi, là, maintenant. Et même ces jours-ci, je me disais, finalement, bon, quand je fais le bilan de ma vie de prêtre, d'abord, on peut être que très modeste, hein, parce que j'ai essayé, comme d'autres, de servir l'annonce de l'Évangile. Mais quand on voit, d'abord, moi-même, j'ai pas eu l'impression de lever des foules, loin de là. Et puis d'autre part, l'Église de France, elle a tout de même pris un sacré coup en nombre, au moins. Voilà, donc ça rend vraiment très très modeste. Et c'est pas nous qui pouvons dire à la jeune génération ce qu'il faut faire, nécessairement. Donc ça rend modeste, mais voilà, et je me disais même, j'étais un petit peu à me dire, oh, ça me regardait un peu les fruits du passé, me démoralise un peu. Puis finalement, je me suis rappelé justement ces jours-ci cette phrase, mais que le grand bonheur qui m'attendait, c'était pas du tout fonction des mérites que j'aurais pu avoir dans mon ministère, et que c'était tout bon, toujours, on peut faire confiance, quoi. Alors, c'est vrai aussi que je me dis qu'il y a des paroles, il y a peu de paroles finalement qui m'ont habité au long de mon ministère. Il y a un évangile qui est celui de la rencontre de Jésus et Pierre après la résurrection. Voilà, après la trahison de Pierre. Voilà, et le triple m'aimes-tu. Et Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et puis, cette parole inouïe que Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Voilà, ça a toujours. Voilà, j'ai toujours eu conscience un peu de, pas évidemment de culpabilité, mais enfin voilà, que ça me parlait beaucoup, cette question de Pierre avec sa faiblesse, quoi. Et je dois dire aussi que ce qui m'éclaire aussi, c'est de regarder toujours qui Jésus a choisi pour être apôtre, quoi. Tout à l'heure, on parlait du statut des prêtres, la figure du prêtre. Bon, la figure du prêtre, c'est vrai qu'on en a pris un coup, mais enfin, quand on voit la figure de Jésus aussi, voilà, il correspondait pas du tout à ce que les gens attendaient comme Messie. Il avait tout faux, et encore plus dans ce qu'il a appelé comme disciple. Il a vraiment choisi des gars très très divers avec leurs limites. Et je trouve ça très confortant de voir ça. Et donc, même pour aujourd'hui, je trouve ça très éclairant. Bon, je commence peut-être à... Qu'est-ce que j'aurais dit, si tout même encore une chose ou l'autre. Oui, s'il y a eu... Avec Lustiger, il y a eu un assez gros changement. Hein. C'est sûr, quand il est arrivé, il y avait avant une pastorale qui était tout de même très développée sur l'action catholique. Le diocèse mettait beaucoup de force là-dedans. Et puis, il a vraiment tiré dans un autre sens. Bon, je dois reconnaître qu'il a, c'est tout de même un grand bonhomme et qu'il a fait un sacré boulot. C'est indéniable. Mais voilà, il a un peu cassé aussi pas mal de choses qui existaient. Ça n'a pas été si facile à vivre pour les prêtres engagés là-dedans. Ceci dit, bon, bah, ma foi, on n'a pas attendu que l'évêque nous dise obligatoirement comment continuer à être prêtre. On a essayé de l'être et de s'adapter aussi à ce qui changeait. Donc, c'était voilà, un autre temps. Je reconnais d'ailleurs que pour l'action catholique aujourd'hui, il y a toujours de belles réalisations, mais elle a tout de même donc beaucoup diminué. Et je reconnais que c'est évidemment une question de changement d'époque, qu'on voit bien que tout ce qui est vie associative, engagement dans la société, etc., tout ça a pris du plomb en l'aile, et aujourd'hui, ce type de mouvement attire très peu. Bon, puis je reconnais que peut-être il y avait une très belle, service de l'apostolat des laïcs qui était là, mais peut-être on n'a pas été suffisamment attentif au fait que il fallait fortifier la vie spirituelle aussi. On proposait bien des démarches spirituelles, mais on travaillait peut-être pas beaucoup sur la rencontre du Christ elle-même. Peut-être qu'on s'appuyait plus sur une évangélisation déjà reçue antérieurement des chrétiens qui étaient là dans ces mouvements. Donc on a peut-être un peu manqué sans doute de réactivité sur les évolutions religieuses de notre pays pour offrir peut-être une plus forte démarche dans ce sens-là. C'est ce qu'ont fait les mouvements charismatiques. Là aussi, ils ont apporté un bel élan dans l'Église. Ceci dit, voilà, l'action catholique s'est crue à un moment un peu le nec plus ultra de l'évangélisation. Les mouvements charismatiques se sont crus aussi un peu le nec plus ultra de l'évangélisation. Ils ont bien révélé aussi qu'ils avaient des faiblesses. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a encore d'autres courants qui arrivent, qui pensent plus qu'en retournant à une certaine tradition, c'est le nec plus ultra de voilà. Je crois que tout ça doit nous rendre modestes, quoi, finalement. Heureusement que chaque génération apporte un peu son élan, mais je crois qu'il faut essayer de se mettre un peu à l'écoute les uns des autres. Et ça se fait un peu, mais peut-être pas beaucoup. Je ressens plus maintenant que je suis en plus arrivé dans le diocèse de Versailles, où en gros on m'a dit dès le départ, écoute, donc, tu es donc prête à la retraite, tu vas rendre des services à la paroisse, mais n'attends pas qu'on te demande des conseils, ni que tu participes à aucun conseil, ni que même tu prêtes trop d'initiatives, on se méfie un peu, quoi. Voilà. Alors, bon, finalement, ça m'a obligé à accepter la condition de prêtre retraité, et ça m'a donné de la liberté. Mais, malgré tout, j'ai un peu un déficit de... Je pense que c'est dommage que, finalement, il n'y ait pas plus de dialogue intergénération, quoi. Et d'autres confrères du diocèse, bon, le ressentent un peu moins que moi, parce que ils sont plus insérés dans le diocèse depuis tant d'années. Mais ils sont assez d'accord, quoi, que le dialogue intergénération ne se fait pas beaucoup, quoi. Et nous-mêmes, quand on était jeunes prêtres, on n'était peut-être pas suffisamment attentifs à ce que nous apportaient les anciens, quoi.
Ça a changé.
Bon. Alors, j'ai fêté les 50 ans de sacerdoce, donc, en juin. Belle occasion de remercier d'abord le Seigneur, sa fidélité. C'est vrai que c'est tout de même un peu époustouflant que malgré toutes mes limites, que j'ai toujours eu l'impression qu'il était là et il nourrissait ma vie. Enfin, que l'Évangile un peu, Pierre m'aimes-tu, restait toujours l'Évangile parlant au cœur. Et puis de remercier aussi beaucoup les laïcs, parce que moi je tire vraiment mon chapeau à beaucoup de laïcs, d'hier et d'aujourd'hui, qui tiennent bon dans la foi, qui nous évangélisent, qui même donne souvent, oui, des belles leçons d'humanité et de d'amour de l'Église. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve que des anniversaires comme ça, ça ne se rate pas pour les remercier, et etc. Il y a aussi une autre joie, c'est de voir tout de même la relève. Vous êtes la relève, mais même aussi, par exemple, les 600 séminaristes là rassemblés à Paris là récemment. Bon, moi, ça m'a réjoui. À la fois, ça m'a fait comprendre des choses. Je ne vais pas reparler de l'enquête, mais sur les mentalités d'aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, c'est tout de même un beau signe qu'ils nous donnent, parce qu'il faut être gonflé aujourd'hui pour se lancer dans le sacerdoce. Et ça me réjouit que, bon, ils n'ont pas la même sensibilité que nous, c'est sûr. Mais voilà, je vois tout de même bien dans les différentes générations de prêtres qu'il y a une vraie foi, une vraie générosité des uns et des autres, quoi, quelles que soient les générations. Donc ça me réjouit. Et une dernière, pour finir. Je suis assez impressionné depuis 2-3 ans par le Congrès Mission. Parce que voilà encore une autre initiative. Je crois que on voit des laïcs là qui ont réinventé, si on veut, la vie apostolique, le souci d'annoncer l'Évangile eux-mêmes, qui ont monté ce congrès. Au départ, c'est parti par des groupes qui me paraissaient à d'autres un peu comme Tradi, Ein Carême, et puis avec quoi, Fondation, hein? Annuncio plutôt, oui. Bon, c'était pas mon nom. Et puis, peu à peu, on a vu ce congrès mission prendre de l'ampleur et arriver à fédérer vraiment des courants d'église très très différents. Et en plus, et que c'était vraiment les laïcs qui étaient moteurs quoi, là-dedans. Et pour moi, c'est un des signes d'espérance de l'Église de France. Voilà, et j'ai envie que de vous encourager à soutenir aussi, parce que là, ils vont avoir un congrès. Le congrès va être dans les paroisses ou les doyennés partout, où ils vont bien, où ce sera possible. Voilà. Donc finalement, quand je regarde un peu tout ça, je pense qu'il y a pas mal de raisons de rendre grâce et puis de remercier.
Un peu atypique, et je vais vous dire un peu de quelle manière je les ai vécues. Le premier ministère, donc, a écrit la pastorale des funérailles. Alors un jour, le ministère général m'a demandé de venir, et il m'a confié à moi pour le ministère. Et là, j'ai quand même été surpris quand même, parce que j'ignorais complètement qu'il y avait un service des funérailles, je ne voulais pas trop l'utiliser. J'étais dans une paroisse très active, intervenant, avec m'occuper des jeunes, du coup très actif, le patronage. Et là, on me demandait la funéraille. J'ai pensé, bon, ça y est, on estime que je suis trop âgé pour m'occuper des jeunes.
Et j'ai pris ça un peu en lassitude,
avec bizarre quand même. Et puis j'étais aussi surpris parce que je ne voyais pas très bien, mal, la portée missionnaire de cette pastorale des funérailles. Je voyais bien que c'était un acte de miséricorde, enfin vous voyez, des hommes de miséricorde, des gens, à enterrer les morts, pas compliqué, des gens, 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 des